C'est le Flash Info.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce Flash quotidien du 26 mars 2020.
Actu locale. La neige est là.
Incroyable! Un épisode neigeux a eu lieu dans le Gard et la Lozère avec des chutes de neige assez importantes dans la région, ce qui a donné de beaux paysages et c'est pourquoi le fond de l'air était si frais dernièrement. Il n'y a plus de saison, ma bonne dame. En tout cas, on a eu droit à des photos de paysages tout à fait magnifiques sur Midi Libre. Voilà, la nature reprend ses droits. Voilà, c'est l'hiver au printemps, le printemps en hiver, l'été dans nos cœurs. Et puis voilà.
Les neuneux des champignons.
Deux neuneux quadragénaires de la commune de Letec dans les Pyrénées-Orientales n'ont pas trouvé mieux que de braver le confinement pour aller à la cueillette des champignons. Résultat, un des deux est tombé d'un pont, car qui fait le malin ? Tombe dans le ravin, et une unité montagne CRS a dû venir le récupérer, ce con-là. Cela a aussi mobilisé le SMUR et les pompiers. Les contrevenants se sont vus infliger une amende de 135 euros. Une bonne tarte dans la gueule n'aurait pas été de trop. Oh, ça rime, dis donc.
Actu nationale. Saint Macron a parlé.
Emmanuel a pris la parole hier devant l'hôpital de campagne du Grand Est mis en place par le régiment médical, ou RMED, de l'armée de terre et a promis un plan massif plein d'argent pour les hôpitaux et organismes de santé. Il aurait peut-être fallu faire ça avant la crise et pas juste avant la vague de gravement malades et peut-être ne pas avoir supprimé des lits, coupé les vivres et les moyens du monde hospitalier dans la ligne des autres gouvernements, bien vu l'aveugle.
Résilience.
Tel est le nom de la nouvelle opération militaire destinée à apporter le soutien à la population française. On aurait pu avoir un nom qui claque, genre Opération Phénix, Opération Tonnerre, Opération Bête du Gévaudan, Mais non, on se tape l'opération Résilience. C'est de la communication, hein, connue en gestion de crise. La résilience est une des étapes terminales en gestion de crise. L'espoir fait vivre, bref, c'est nul à chier comme nom, mais on est bien heureux que notre militaire vienne nous aider. On espère qu'ils viendront nous border et nous chanter des petites chansons militaires comme nos anciens du Liban. Big up! Big up à nos militaires. Donc la première décision, c'est le porte-hélicoptère amphibie Mistral qui sera déployé immédiatement dans le sud de l'océan Indien et à partir de début avril, le porte-hélicoptère Dixmude ira se positionner dans la zone anti-Guyane en soutien de nos territoires ultramarins. Et on sait que aussi la marine est mobilisée puisqu'ils ont des hôpitaux flottants, donc c'est pratique.
Actu international. America, fuck yeah.
Ah, que l'on aime parler de ce beau pays. C'est comme un peu regarder une émission de télé-réalité, sauf que c'est vrai. Un suprémaciste blanc a été tué par le FBI car il voulait s'en prendre à coup de voiture bélier à un hôpital de Kansas City pour protester contre le gouvernement fédéral trop lent à la réponse du virus selon lui. Tuer des malades pour protester contre le gouvernement, on n'arrête pas les conneries. Toujours aux USA, la norme Do not resuscitate, soit pas de ressuscitation de quelqu'un qui a son cœur qui s'arrête de battre, va être appliquée par défaut. Cette mesure, normalement, doit être explicitement demandée par le malade, soit par un tatouage ou une déclaration. Donc là, la charge de l'intention est renversée, c'est la merde.
Il est l'heure, monseigneur, de se réveiller.
Des lingots d'or s'arrachent comme du papier toilette. Voilà, les pauvres y prennent du PQ et les riches des lingots d'or. La demande en or est telle en ces temps de pandémie que l'approvisionnement est freiné par les mesures de confinement et donc ne suit plus. La taille des lingots a même dû être rationnée, raconte le Financial Times. Ah bah merde, alors je voulais acheter des lingots, c'est trop dommage, sachant que les riches aussi essaient d'acheter des îles privées, voilà, bon. Bah grand bien leur face.
Actu en vrac. Magnifique photo.
La première journée de la Terre a eu lieu le 22 avril 1970 et le magazine National Geographic va paraître son prochain numéro en avril pour fêter les 50 ans d'anniversaire avec des photos magnifiques. Il y a notamment une photo incroyable d'un potager sous-marin où un plongeur récolte des tomates dans la mer en Italie, ils font pousser ça sous l'eau, c'est incroyable, ou un autre pingouin sur la banquise qui fait un plongeon, numéro à ne pas manquer en avril donc.
Actu insolite. Une info cruciale.
Les policiers du département de la Loire ont verbalisé un homme qui promenait ses deux moutons à hugneux dans un parc fermé en raison des mesures de confinement. Les ovins ne sont pas considérés comme des animaux de compagnie et ne permettent pas une sortie dérogatoire. Oh là là, et les lapins non plus d'ailleurs. Un couple a en effet reçu une amende de 135 euros samedi 21 mars pour avoir promené son lapin en laisse dans les rues d'Apt, dans le Vaucluse. Bah, ils ont des sentiments quand même. Ils ont envie de sortir. Bah oui.
Un peu de musique dans ce monde de brutes.
Allez, pour adoucir vos âmes, on a dégoté un super extrait d'une version de la BO de Pirates des Caraïbes de Hans Zimmer. Hein. C'est une BO incroyable. Jouez au clavecin pendant 30 secondes, c'est 30 secondes de bonheur, c'est cadeau. Merci, bonne journée à vous, bonne journée, on garde la pêche.
fais exprès, tout à la suite.
Brother, we don't speak much. Brother, brother, we've been through a lot. Inside of us, we know, we know. It's been a while ago, long sad happy road. Our shells ain't open yet. Will our feelings ever show? Oh, I hope you learned a lot. Trust me, you've been a milestone. Brother, brother. Inside, we know, we feel when it's right, you feel when it's wrong. I love you so I write you a song. I gave you shame, I was a clown. You made me who I am now. Spreading kindness all around. Wonder how the heart you tied. Brother, brother.
Sentinelle pour lutter contre le terrorisme en France, il y aura désormais l'opération Résilience pour lutter contre l'épidémie de coronavirus. En visite hier soir à l'hôpital de campagne installé à Mulhouse, c'est en chef des armées qu'Emmanuel Macron a annoncé que des soldats français allaient être appelés en renfort en vue de jours difficiles.
Nos soignants qui se battent aujourd'hui pour sauver des vies se sont hier battus, souvent pour sauver l'hôpital, notre médecine. Beaucoup a été fait, sans doute pas suffisamment vite, pas suffisamment fort. L'engagement que je prends ce soir pour eux et pour la nation tout entière, c'est qu'à l'issue de cette crise, un plan massif d'investissement et de revalorisation de l'ensemble des carrières sera construit pour notre hôpital. C'est ce que nous leur devons, c'est ce que nous devons à la nation. Cette réponse sera profonde et dans la durée.
L'Italie est toujours sévèrement frappée par le Covid-19. Hier, 683 personnes sont mortes. Le bilan officiel fait état de plus de 7500 décès. Peut-être une petite lueur d'espoir pour les Italiens. Pour le quatrième jour consécutif, la hausse des contaminations a ralenti, mais il faut bien sûr rester prudent.
see how the year's starting. New decade, yeah, shit be smashing. Said we were going for Chanel skins. Better off self, yeah, we'll miss it. It's my year, I can feel it. We all had that thought for a minute. But work hard and practice. You better train, squeeze your luck and lock it. No more tricks, don't save on your pocket. No one's stopping the progress. And the whole crowd going mad. No much resistance, we all become savage. Women are proud to me, no fun. If it's only agony, we're done. Gotta keep a positive spirit. You rip a bit of until the sun, we hit the kingdom. As I said, it just started. It's a Nazi glass half empty. Calm and tone, you it's old to karaoke. You heard this season, come on, it's time to do a one-sim. Please do yourself as much as you want. Nobody really here to judge. People going mad, individualists. And they all be wearing masks, protect them from the spit. And I think that diarrhea must be in the air. And they fight for toilet paper and then I wanted a shack. Come on, stay home. Seven's not gonna be easier. You miss out like you used. You were born in the right era. Cause you can't use your cellular station. Just call your thumb and drink vodka. Yeah, they're fresh, we fresh, we fresh, she fresh. FaceTime, some wine, house party, we flex. No food, empty shelves, but still some flesh. FaceTime, some wine, house party, we flex. Flex, flex, flex. Flex, flex, flex.
C'est l'image choc qui fait frémir l'Espagne. La patinoire de Madrid, transformée en morgue géante. À l'intérieur, des dizaines de cadavres entreposés sur la glace, à même le sol. L'Espagne a vécu mercredi sa journée la plus noire depuis le début de la pandémie de coronavirus. Ces dernières 24 heures, la progression a été fulgurante.
Aux États-Unis, après les mesures prises à New York et en Californie, c'est désormais la capitale, Washington, qui est touchée. Tous les commerces non essentiels ont reçu l'ordre de fermer. Le pays a dépassé, il y a quelques heures, la barre symbolique des 1000 morts.
Bon, on va pas se mentir, le confinement, il commence à nous faire péter de pile. T'en as ton 200e Uno avec toi-même, tu te mets des plus 4 tout seul, tu t'auto-boudes. Là, tu veux voir des potes. Enfin, des gens, même au pif. Dans une semaine, même un frotteur du métro, tu prends. Ça se bourre la gueule à 14h, la France est en train de devenir un PMU géant. En même temps, faut être bourré pour écouter le gouvernement et son magnifique petit concerto de flûte à bec en ré mineur. Même eux, ils en peuvent plus de mentir. J'ai vu Édouard Philippe, il somatise. Sa tâche de stress, elle évolue comme un Pokémon. C'est plus une barbe, c'est un appel à l'aide. Mais là, lueur d'espoir, Raoult qui débarque la mèche en Y, et j'aimerais bien qu'il ait un remède. Mais faut reconnaître qu'il a préparé son médicament comme un marabout qui a Parkinson. Son étude, elle est bancale sur une vingtaine de patientes. On a 3 qui sont barrés, 1 qui est mort, 8 qui sont devenus sourds, 3 qui voient des pangolins partout. Mais on aimerait tous qu'il ait raison. Si c'est ça le remède, je me le mets en suppos avec un grand sourire, je fais une story, je l'envoie sur le groupe WhatsApp de la famille. S'il a raison, c'est les labos pharmaceutiques qui vont faire la gueule. Toute l'année, ils nous filent la chiasse pour mieux nous vendre de l'imodium. Si le remède, c'est un médicament qui vaut pas un tic-tac, ils sont pas à l'abri de faire glisser un petit flacon de Covid 20-21 de l'étagère comme ça. Oups! Faut que j'arrête, là, je commence à devenir complotiste. Dans 3 jours, je vais vous expliquer que si le virus il est là, c'est parce qu'il y a un Illuminati qui a sucé un reptilien. Allez, tenez bon. Ciao.
Professeur Raoult, je ne sais pas pourquoi tous te pensent si vilain que ça, que discourir ainsi. C'est en somme aussi facile que les pliers de l'eau. Je viens du net et les débats sans elle ne parlent que de toi. Comme d'un Russilien qui s'est rusé si bien qu'on finit par le croire. De peur l'arbour de sourdre reptile au secours.
Ça ne viendra pas en France. Ça vient en France. C'est pas dangereux. C'est dangereux. Restez chez vous. Allez voter. Télétravaillez. 1000 euros pour ceux qui vont bosser. Pas de rassemblement. Rendez-vous dans les champs pour aider les agriculteurs. Eh, hey, c'est la merde depuis janvier. Les mecs ont commandé les masques le 3 mars. Putain, le 3 mars, quoi. C'est comme si je baisais et 9 mois après, j'achète une capote pour foutre le gamin dedans. Bonjour, papa.
Le risque d'importation de cas depuis Wuhan est modéré. Il est maintenant pratiquement nul et les risques de propagation du virus dans la population sont très faibles.
Nous sommes en guerre.
On a tous péché par défaut. C'est-à-dire qu'on a tous minimisé l'importance et la gravité de cette épidémie.
Cette reconnaissance, on l'a chaque jour à 20h au balcon de nombreux Français. Emmanuel Macron qui retweete ses vidéos sur son compte personnel, ça vous inspire quoi de voir ça?
Je sais pas comment dire ça gentiment. Ça m'inspire Ça m'inspire de la tristesse, en fait. Je me dis qu'il n'a rien compris.
Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur radioparleur.net.
Avec le confinement contre le coronavirus, plusieurs organismes d'aide aux femmes victimes de violences craignent une augmentation des violences conjugales au cours des prochaines semaines. 200 000 femmes seraient actuellement confinées avec un conjoint violent en France. Isabelle Steyer est avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes. Elle alerte sur les risques de la situation.
Et le confinement permet la femme est en totale à disposition de son mari. Elle doit faire ce qu'il veut, au niveau physique, au niveau sexuel, au niveau de la liberté, au niveau des enfants, au niveau de l'absence de communication aussi avec les autres. Parce qu'être confiné, c'est être en tête à tête, mais c'est être aussi rompu de tout ce qui est de l'extérieur. Et c'est exactement ce que souhaite l'homme violent. Je suis Isabelle Steyer, je suis avocate au barreau de Paris, j'exerce depuis 27 ans, exclusivement dans le domaine des violences faites aux femmes et aux enfants, et du droit des femmes et des enfants de façon générale d'ailleurs. Généralement, les femmes sont très contentes que leur mari aille travailler pour éviter les emportements et les violences. Et là, on est constamment 24 sur 24 ensemble quasiment. Alors ça a quelles conséquences? C'est que vous savez que les hommes violents, la violence, elle arrive à un moment où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que le crayon est mal taillé, la cuisine n'est pas assez propre ou bien faite, la coiffure de madame n'est pas comme de monsieur. Donc sur un motif vraiment insoupçonnable, hein, pas un motif de conflit. Et si quelque chose ne correspond pas à ce que lui souhaite, lui veut, lui imagine, lui entend, lui comprend, eh bien, il s'ensuit des violences verbales, physiques, sexuelles, émotionnelles, économiques, hein, la demande d'argent pour aller chercher, faire les courses. Il peut tout à fait l'empêcher de sortir, puisque hein, il peut avoir la clé, la prendre. Et donc, quand on vit tout le temps ensemble, évidemment que on peut tout critiquer. On le voit, quand on s'entend bien, c'est déjà pas très facile. Puis on n'avait jamais l'habitude jusqu'à aujourd'hui de vivre toute la journée, tout le temps ensemble. Ça n'arrive que le week-end. Encore le week-end, on sort, on fait des courses tranquillement, à faire du sport, à avoir des amis. On va qu'à ses occupations personnelles aussi. Donc on n'est jamais aussi souvent ensemble. Et là, eh bien, tout ce qui n'est pas conforme à ce que souhaite monsieur, qui lui estime de détenir la vérité et le bon sens dans tout et de tout et pour tout, eh bien, va susciter des mots violents, des gestes violents, des marques de désapprobation, de l'avilissement, de l'anéantissement. Et puis finalement, ce confinement, c'est une façon aussi que l'autre ne sorte pas. Donc, monsieur va pouvoir surveiller tout ce que fait madame. C'est très facile avec le confinement. Donc, on sait qui elle appelle, elle sait de qui elle reçoit des appels, on sait combien de temps elle sort, hein, si elle doit aller à la pharmacie ou au supermarché faire les courses. On sait avec quoi elle revient, on sait combien de temps elle a mis. On est renseigné d'exactement tout ce que fait madame. Donc, tout ce qui est de l'ordre du contrôle est sur contrôlé. Tout ce qui est de l'ordre de la domination est sur dominé. On n'a plus de vie intime, hein, puisque toute l'intimité est partagée. On ne peut plus parler à son psy, on ne peut plus parler à son médecin tranquillement, on peut appeler des amis tranquillement, on ne peut plus appeler ses parents tranquillement, on peut appeler son avocat.
Quel est, vous, votre rôle en tant qu'avocate pour défendre les victimes, notamment dans cette période très particulière du confinement?
Il faut qu'elle m'appelle. Alors, elle peut m'appeler au téléphone. Alors maintenant, c'est dans la salle de bain, dans les toilettes, quand elle sort, sur le palier. On a des paliers. Il faut utiliser les espaces que vous n'avez pas l'habitude d'utiliser. On a des paliers, on a des ascenseurs, on a des locaux poubelles, on a des cours intérieurs parfois, on a des fenêtres, on a des balcons, on a des trottoirs, même le bord de... Voilà, le hall d'entrée. Hein, on a tous un hall d'entrée. Vous pouvez appeler de là. Fermine d'aller chercher le courrier, voyez. Il ne faut pas se gêner pour appeler dans ces endroits-là, textoter, faire des mails, utiliser les modes de communication nouveaux, hein, en fait. Le mail et le texto sont très utilisés. Un côté très positif, et tous les voisins sont là, à peu près. Beaucoup de voisins sont là. Donc on peut taper, on peut crier, on peut monter ou descendre chercher du secours, parler, même au travers d'une porte, hein, même à un mètre de distance. On voit que les gens sont quand même beaucoup plus proches avec ce confinement. Taper au mur, taper les pieds, crier, tout le monde va entendre.
Violence femme info, bonjour. Pour des raisons exceptionnelles, le 3919 est actuellement fermé. Nous vous invitons à renouveler votre appel ultérieurement. En cas d'urgence, veuillez appeler le 17 ou le 112. Vous pouvez également consulter le site de la Fédération Nationale Solidarité Femmes au www.solidaritefemmes.org.
Ça, c'est ce qu'on pouvait entendre jusqu'à ce lundi 23 mars en appelant le 3919, numéro d'aide pour les femmes victimes de violences. Injoignable depuis le début du confinement le 19 mars dernier, il fonctionne désormais du lundi au samedi de 9h à 19h. Léonore Guénoun est militante au collectif Nous Toutes. Vendredi dernier, ce collectif a lancé une pétition pour demander au gouvernement un plan d'urgence contre les violences faites aux femmes.
Allô ?
Oui, bonjour madame.
Je m'appelle Léonore Guénoun et je suis militante Nous Toutes.
Pourquoi ce contexte de confinement est-il synonyme d'augmentation des violences conjugales ?
Alors déjà, il faut savoir que dans toutes sortes de crises où les gens doivent rester à la maison, il y a un risque d'augmentation des violences. Ça marche avec ce confinement en ce moment qu'on a pour des raisons sanitaires, mais ça marche aussi quand il y a des problèmes de catastrophes naturelles ou voilà. Sur la situation en Chine, depuis que le confinement a été déclaré en Chine, les violences conjugales ont explosé.
Donc selon vous, en fait, la situation générale aujourd'hui entraîne par exemple de l'angoisse. Est-ce que cette angoisse, ça peut aussi être un facteur aggravant les violences conjugales?
Oui, bien sûr. En fait, tout ce qui porte sur le moral de soit de la personne violente, mais aussi de la victime, ça décuple les violences et ça décuple l'impact qu'ont les violences quand elles sont présentes. Il est très important de rappeler, et c'est ce qu'on essaye de faire tous les jours en ce moment avec nous toutes, que c'est pas parce que le gouvernement nous demande de rester chez nous qu'une femme n'a pas le droit de fuir. En fait, c'est pas interdit de fuir. Donc, si une femme se trouve en situation de violence, elle peut tout à fait appeler le 3919, qui est le numéro d'information sur les violences.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement qu'un numéro d'urgence tel que le 3919 ne fonctionne pas totalement ?
C'est très grave parce que ça veut dire que si des femmes victimes peuvent appeler, elles peuvent se retrouver soit avec énormément d'attentes, soit avec des moments où tout simplement le numéro n'est pas disponible, où il n'y a pas d'interlocuteur disponible. Et c'est vraiment un comble que le 3919 soit réduit, surtout dans cette période de confinement. En Espagne, par exemple, leur numéro d'urgence en ce moment, il est ouvert 24 heures sur 24. Et donc, en fait, au contraire, il faudrait qu'en France, ce soit pareil, pas que ce soit réduit, mais que ce soit ouvert encore plus, surtout que c'est un travail qui peut se faire en télétravail, par exemple, et donc ça ne demande pas de mettre le personnel du 3919 dans des situations de risque sanitaire. Donc non, c'est complètement ahurissant.
Et quelles pourraient être les solutions alternatives à ce 3919 ? Est-ce qu'il existe d'autres numéros à contacter en cas de besoin ?
Pour remplacer le 3919, en tout cas si vous n'arrivez pas à contacter le 3919, donc en cas de danger immédiat, c'est la police, hein, donc par 17 au téléphone ou 114 par SMS. Et sinon, vous pouvez appeler aussi le 0800 05 95 95, qui est aussi un numéro de téléphone anonyme et gratuit et qui lui est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 22h. Et le samedi, le dimanche ou les jours fériés, c'est ouvert aussi, avec des horaires réduits. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent que faire, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en ce moment, pour aider face justement à l'augmentation des violences conjugales pendant le confinement. Il y a deux choses qu'on peut faire facilement. D'une part, c'est dire et répéter aux hommes autour de soi que le confinement n'autorise pas à être violent et n'autorise pas à imposer une relation sexuelle. Et ça paraît évident, mais en fait, clairement, ça ne l'est pas. Donc, vraiment pas hésiter à le rappeler. Et l'autre chose très concrète qu'on peut faire, c'est appeler ses amis, ses copines ou les personnes dont on a des soupçons qu'il peut y avoir des violences et prendre des nouvelles régulièrement, appeler appeler tous les jours, tous les deux jours et dire qu'on est là, mais aussi voilà, rappeler qu'elle n'est pas seule. Donc ça, c'est deux choses très concrètes que tout le monde peut faire.
Au sein de nous toutes, comment est-ce que vous agissez pour informer sur ce phénomène d'augmentation des risques de violences conjugales aujourd'hui ?
Nous toutes, de manière générale, ça repose à la fois sur des actions de terrain et sur des actions sur les réseaux sociaux pour faire monter le niveau de conscience. Bon là, évidemment, avec les circonstances actuelles, les actions de terrain, elles sont un peu compliquées. Donc, on fait des campagnes de sensibilisation à la fois sur nos trois réseaux sociaux. On a aussi des groupes de diffusion, des militantes qui sont inscrites dans des groupes de diffusion où on leur envoie des visuels ou des informations et qu'elles partagent largement autour d'elles. Et donc on essaie de faire passer l'information au maximum pour que les femmes sachent qu'il y a des possibilités, quoi, qu'on peut fuir et que on peut être aidé.
Par ailleurs, les services sociaux ont-ils les moyens de faire quelque chose de plus ? Est-ce que aujourd'hui ils font face aussi à des contraintes particulières en raison du confinement, par exemple le relogement, les transports des femmes victimes, leur prise en charge? Comment tout cela se déroule-t-il actuellement?
Bah, écoutez, les services sociaux, ils font ce qu'ils peuvent, hein. Ils sont avec les moyens qu'ils ont et encore une fois avec les circonstances actuelles. On a bien vu que le président de la République et le gouvernement débloquent des fonds massifs pour aider à faire face à la situation actuelle et pour aider l'économie. Et en fait, une des priorités absolues, ce serait qu'une partie de ces fonds soit redirigée notamment vers les services sociaux pour aider les femmes qui sont victimes de violences, pour qu'elles soient accompagnées, qu'elles soient relogées et qu'elles ne se retrouvent pas coincées chez elles dans des situations dangereuses. Donc ça aussi, c'est une revendication très forte qu'on a. C'est sûr que les centres d'hébergement, déjà, ils sont surchargés de manière générale, mais encore plus pendant cette période. Et c'est pour ça que nous, on demande des places dans des centres d'hébergement pour la période actuelle. Par exemple, encore une fois, comme en Espagne, un dispositif où il y aurait des places dans des hôtels qui sont en ce moment fermés ou en tout cas peu occupés. Et ça pourrait être une solution pour les femmes qui ont besoin de fuir.
Fuir le domicile, se mettre à l'abri pour échapper aux violences conjugales. Mohamed Djemal est président de Un Toit pour Elle, une association qui vient en aide aux femmes qui sont à la rue. Il pointe à la fois l'absence de consignes claires de la part du gouvernement pour les mises à l'abri durant le confinement et des logements d'urgence qui sont, pour la plupart, déjà saturés.
Oui, allô ? Oui, je vous entends très bien. Je m'appelle Mohamed Djemal, je suis président de l'association Un Toit pour Elle. Donc on vient en aide aux femmes qui sont à la rue. Donc nous avons comme public des femmes qui sont soit seules, soit avec des enfants, soit victimes de violences, soit abandonnées par leurs parents ou par leur famille. On intervient sur tout le territoire d'Île-de-France. On accueille des femmes de toute la France, par contre, qui nous sollicitent pour une mise à l'abri ou un hébergement. Parce que ce dispositif, c'est ça, en fait, c'est la mise à disposition de logements en urgence pour des femmes qui sont victimes de violences ou menacées de mort, pour permettre à ces femmes-là de se mettre à l'abri et d'être protégées et de pouvoir se reconstruire, en fait, parce que derrière aussi, il y a tout ce travail qui doit être fait.
Est-ce que la période actuelle et le contexte du confinement sont-ils synonymes d'une augmentation des violences conjugales et donc de votre action de terrain ?
De ce qu'on peut voir, oui, effectivement, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la majorité des femmes qui sont victimes de violences sont isolées par le conjoint en question. Donc, et là, ce confinement est propice en fait à toutes sortes de maltraitances, etc. Et en période de confinement, même pour les gens pour intervenir, le temps est rallongé en fait. Donc, c'est très très compliqué en fait pour venir en aide à ces femmes-là. Et même pour sortir, pour se mettre à l'abri, c'est pas évident parce qu'en règle générale, ces femmes utilisent des stratagèmes entre guillemets pour sortir et pouvoir alerter quand elles le peuvent, mais c'est pas évident, surtout en période de confinement là, parce que là elles sont enfermées entre guillemets à la merci de leur bourreau.
Vous, en tant que centre d'hébergement et association d'accueil, quelles sont les contraintes spécifiques au confinement auxquelles vous faites face?
Tout est compliqué parce que déjà il y a eu des promesses qui ont été faites par le gouvernement et qui n'ont pas été tenues. Déjà pour la mise à disposition et la mise à l'abri des SDF, par exemple, Donc, en l'occurrence aussi, ces femmes-là, parce qu'elles se retrouvent, quand elles quittent le foyer, elles se retrouvent SDF à un moment donné ou à un autre, et pour aller se mettre à l'abri, ben en fait, vu que tous les services sont saturés, fermés, etc., elles sont perdues. Donc là, par exemple, on a des femmes qui sont à la rue actuellement, et les services ne peuvent pas répondre. Donc on nous balade un petit peu à gauche, à droite, entre le ministère de la Solidarité et de la Santé, les préfectures, les mairies, etc. En fait, il n'y a pas eu vraiment de consigne claire de la part du gouvernement pour mettre à l'abri ces femmes-là. On espère que le gouvernement va tenir ses promesses concernant la mise à l'abri, la mise à disposition des chambres d'hôtel. On espère vraiment, parce que là, on a pareil concernant les masques, et le gel, les gants, etc. Ça devait être mis à disposition des associations, du service hospitalier, etc. Et ça n'a pas été fait, en fait.
Est-ce que par ailleurs, les centres d'accueil et les centres sociaux sont déjà saturés? Est-ce que du coup, le confinement accentue cette saturation des centres d'accueil?
En fait, il n'y a pas assez de centres. Ça, c'est une réalité. Il n'y a pas assez de centres, que ce soit en France, en Île-de-France. Le système est très mal fait, en fait, malheureusement, parce que ce qui se passe, c'est qu'une femme, par exemple, qui va quitter son logement dans le 92, elle ne va pas rester dans le 92, parce qu'elle sait que le conjoint, par exemple, va la retrouver, va la chercher, etc. Donc, elle va essayer de se réfugier dans un autre département. Le problème, c'est que le département d'accueil ne l'accueillera pas, parce que, je crois que depuis la répartition des territoires, pour pouvoir prétendre à une domiciliation administrative ou à une aide ou un accompagnement, il faut être hébergé depuis plus de 3 mois sur le territoire en question, donc le département. Donc, c'est très compliqué, en fait. Déjà, ça... le manque de places et d'accueil, des centres, il n'y en a pas assez. Il n'y en a vraiment pas du tout de places. Actuellement, c'est très, très compliqué. C'est-à-dire qu'on fait du bricolage, en fait. On paye des nuits d'hôtel, on essaie de trouver des hébergeurs solidaires, etc. Mais c'est pas évident. Alors là, avec le confinement, les gens sont en pleine panique par rapport au Covid et ne veulent pas héberger. Autant vous avez des centres d'hébergement qui sont très clean, très, très au top, et qui autant il y en a d'autres qui sont catastrophiques en termes d'hygiène, etc. Donc déjà avant le Covid, c'était compliqué. Là, avec le Covid, c'est encore beaucoup plus compliqué. Donc les gens, je pense, s'isolent. Là, il y a un hôtel dans le 12e qui va accueillir des personnes, etc. Mais par exemple, ils ont un problème sanitaire. C'est quoi? C'est des punaises de lit. Et le souci, c'est que ce genre de choses, de problématiques là, en fait, va augmenter le stress et va pousser les gens à essayer de trouver autre chose. Mais avec le confinement, c'est très très compliqué en fait. Même nous, en tant qu'association, hein, autant il y a certains secteurs où on peut intervenir, etc. Et d'autres secteurs, on est vraiment mis à mal entre guillemets parce que contrôle de police, etc. Impossible d'intervenir parce que pour eux. Enfin, il n'y a pas de légitimité, c'est au gouvernement de faire les choses, mais sauf que derrière, ils n'ont pas les informations qui sont nécessaires pour qu'ils comprennent que la situation, en fait, les dépasse, en fait. Pour les femmes qui sont à la rue, etc., c'est pas une préoccupation en soi. C'est-à-dire qu'elles vont même si elles se feront alpaguer par la police et qu'on leur donne une amende, etc., elles vont en faire fi, en fait, parce qu'elles se disent « Attends, j'ai pas de toit sur la tête, j'ai pas de vie, je suis pas connu, je suis pas reconnu. C'est pas une amende qui va m'interdire de chercher à me protéger, quoi. » Donc, au final, c'est ce que je dis, c'est que les préoccupations d'une personne qui est à la rue sont totalement différentes de ceux qui, comme nous, qui avons un toit, etc., une vie. C'est un ensemble de problématiques qui se rajoutent, en plus, avec le confinement. Donc, c'est pas évident.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.